On est aujourd'hui dans un parc national. Et on est dans un parc national où il y a un tuyau qui amène les boues rouges dans le parc national. Ça déjà, ça me paraît pas très cohérent.
Quand on se retrouve avec la maison empestée d'eau rouge qui sortent de là-dedans, on se demande toujours ce qui peut contenir exactement dans les particules.
L'industriel n'a eu de cesse de désinformer le public, tout simplement pour gagner du temps et pour pouvoir continuer à déverser ses déchets dans l'environnement.
Un pêcheur, une retraitée et un universitaire lanceur d'alerte. Trois regards sur un péril écologique, sanitaire, un scandale industriel devenu un scandale d'État. Bonjour et bienvenue dans cette 26e visite de la saison 6 du Panthéon décousu sur Radio Alpa 107.3 au Mans et radioalpa.com partout ailleurs. Cette semaine, retour entre Cassis et Gardanne, où l'on explore sous d'autres aspects les rejets polluants extraits du traitement de la bauxite. Dans ce sujet du Grand Soir 3 de décembre 2014, outre Mathilde de la Retraitée et Olivier Dubuquois, l'universitaire, on y entend aussi notre marin du jour.
Gérard Carodano est pêcheur, il connaît l'endroit par cœur. Il nous emmène dans la calanque de Port-Miou, exactement là où le tuyau descend dans la mer.
On est dans un des plus beaux endroits de la Méditerranée. Ce que les gens ne savent pas, c'est que sous nos pieds sort le tuyau de la honte. C'est le tuyau qui nous a amené 30 millions de tonnes de boue rouge, de résidus, et ce, dans le canyon de Cassidagne, le canyon qui était réellement un poumon pour l'écosystème marin. À quoi ça sert de faire un parc? À quoi ça sert qu'on fasse des réserves? Qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures? Parce que ça, c'est une bombe à retardement. J'ai du corail à la main qui, normalement, est rouge et jaune à la sortie de l'eau. Il est complètement brûlé.
Bon, je ne voudrais pas être taxé d'avocat à charge. Écoutons le patron d'Alteo, ex-pêchinet.
Les gens qui font cette usine, il y a une vraie passion pour leur métier, une vraie passion collective. Et oui, ça m'embête effectivement que les efforts de ces gens-là depuis 120 ans soient dénigrés sans arrêt. Il y a vraiment des vrais efforts qui sont faits pour améliorer l'environnement.
Bah tiens, une telle activité industrielle améliore-t-elle réellement l'environnement? Ou tout au plus devrait-elle chercher à améliorer son impact sur l'environnement, notamment en dépolluant au maximum ses rejets et stockages? Car m'est avis qu'ils sont rares ceux qui en veulent aux salariés qui ont le boulot qu'ils peuvent, mais au mode de traitement et stockage des résidus, ça oui. Il y a 6 ans, en juillet 2017, la Fédération de France Nature Environnement, de PACA, a sorti une vidéo intéressante. Hélas, impossible d'identifier les intervenants, le premier est visiblement un expert des stations d'épuration. Il nous refait un bout de l'historique de l'usine de Gardanne, au nord de Marseille.
Alors au début, de 1900 jusqu'à 1960, l'industriel a commencé par mettre ses boues rouges tout autour de son usine. Bon, très rapidement, ils ont reversé ça dans des vallons, dans les collines tout autour donc, de Gardanne et même de Bouc-Bel-Air. Ils ont construit ce qu'on appelle une télébène, donc une sorte de téléphérique, mais avec des bennes qui charriaient les boues rouges. Et puis donc, ils ont rempli tous ces vallons. Alors, il y en a un qui est célèbre, hein, qui s'appelle Mangegari. Mangegari. C'est une abomination.
Si vous n'avez pas retenu le nom du lieu, ne vous inquiétez pas, on va y revenir longuement ici. Direction l'usine maintenant. Attention, ça pique les oreilles dès l'entrée de l'ouvrier. Dérogation.
C'est la chargée de communication qui s'y colle et elle veille au grain. Attention, sécurité.
Messieurs, c'est pas du blanc ?
On a une dérogation aussi, là.
On produit des alumines dites de spécialité, qui sont donc des alumines qui ne servent plus pour l'aluminium, mais qui servent pour la production de tout un tas de produits, comme par exemple les écrans LCD. On trouve 15% d'alumine dans les écrans plats. On utilise de la bauxite qui vient aujourd'hui de Guinée, parce qu'elle est plus performante en termes de... elle génère moins de résidus, donc c'est quand même très important pour nous de générer moins de résidus.
La bonne nouvelle du jour, la bauxite d'Afrique est plus performante que notre bauxite française car elle génère moins de résidus. Soit, ça fait une belle jambe au Guinéen qui l'extrait, et nous, aucune solution durable puisqu'il reste encore des résidus et pas les plus sains.
Désormais, ils vont être acheminés via ce tuyau de l'usine jusqu'à cette machine, un filtre presse. L'objectif, obtenir un déchet sec, la bauxaline, que l'entreprise souhaite même valoriser.
Le fait effectivement de devoir stocker de grosses quantités de résidus de bauxite à partir de 2016, bah, ça nous oblige effectivement à avoir, à prendre une perspective différente par rapport à ce déchet. Et à partir du moment où on arrive à le valoriser, c'est-à-dire lui trouver une utilité pour d'autres, ce n'est plus un déchet.
Et c'est l'astuce. Un produit n'a pas la traçabilité contraignante d'un déchet. La bauxaline est déjà valorisée sous forme de tuiles, de béton léger ou de billes d'argile pour les pots de fleurs.
Mais si, on en a tous vu, dans les halls d'immeubles, des salles d'attente, de toupies par exemple.
Elle pourrait même servir à dépolluer des sols, comme l'explique cette plaquette d'Alteo, sans aucun danger, nous dit-on, pas radioactif, pas toxique.
Les déchets sont absolument pas toxiques. Je veux dire, cette bauxaline, c'est un matériau qui n'est absolument pas toxique, pas irritant, et on peut le stocker effectivement. Enfin, c'est pas une décharge ici, c'est une zone de stockage.
Le patron cherche ses mots, donc zone de stockage, mais pas poubelle. On retient. La bauxaline, c'est merveilleux. C'est remettre dans le circuit commercial un résidu dont l'industrie pensait être non valorisable. Or, c'est tout bénef de vendre un truc qu'on pensait invendable. Bon Thalassa 2016.
Il est interdit de pêcher dans le canyon de Cassidène. C'est une zone condamnée. Les espèces qu'on trouve ici ont été analysées. C'est la première et la seule grande enquête réalisée par l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Dominique Gombert est le directeur de l'évaluation des risques à l'ANSES.
Pour les trois contaminants, donc, qui sont l'aluminium, le vanadium et le titane, qui sont vraiment très spécifiques du rejet d'Alteo, eh bien, on avait des niveaux de concentration qui étaient de 2 à 3 à 4 fois plus dans la zone de rejet que dans la zone de référence. Dans tous les cas, les contaminants auxquels on s'intéresse sont des contaminants qui peuvent avoir des effets sur la santé, pour la plupart d'entre eux, donc notamment des effets neurotoxiques.
En 2014, Olivier Dubuquois est avec l'équipe de France 3.
En fait, les éléments chimiques, ce sont essentiellement les métaux lourds.
Il nous présente cet expert en toxicologie, à qui il a confié un prélèvement de bauxaline pour analyse. Et les résultats de l'enquête que nous avons obtenus en exclusivité sont là encore inquiétants.
Pour trois éléments particuliers, le chrome, le titane et le vanadium, les teneurs dans ce substrat sont considérablement plus élevées qu'elles ne le sont dans la croûte terrestre naturelle.
Le chrome, par exemple, est 10 fois plus élevé que sur un sol non contaminé. C'est déjà dans ce laboratoire que Bernard Taillez avait montré la toxicité des résidus de pétrole de l'Erika. Et c'est pourquoi Olivier Dubuquois s'est adressé à lui.
Cette étude est particulière parce que c'est la première étude sur la bauxaline qui est menée par un laboratoire indépendant.
Une étude que nous avons montrée ce matin au directeur d'Alteo, qui contre-attaque.
Les résidus de bauxite qui sont stockés à Manjgari ne sont pas toxiques. Je trouve tout à fait déplorable qu'on utilise des informations inexactes, qu'on en fasse un amalgame, de manière à provoquer, et chez nos salariés, mais surtout chez nos riverains, des craintes infondées sur quoi ? Sur la santé. C'est juste déplorable.
Même en le variant, on commence à bien connaître le couplet de l'industriel. En plateau du Soir 3 de décembre 2014, l'auteur de l'enquête.
Alors, l'industriel a régulièrement produit des études qui toutes disent que les résidus de bauxite ne sont pas toxiques, pas radioactifs. En septembre, Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, a demandé au Bureau des recherches géologiques et minières, le BRGEM, de lui remettre un rapport. Mais le BRGEM, qui est un organisme public, n'est pas spécialisé au départ sur la question de la toxicité. L'étude aurait déjà dû être rendue publique. Et si ça tarde, c'est que ça ne doit pas être si simple compte tenu des enjeux. Et puis, une petite remarque, le BRGEM est partenaire de l'entreprise Alteo dans un projet de valorisation de la bauxaline, le projet Bravo, et ça c'est un peu dérangeant quand même.
C'est étonnant, oui. Comment être juge et parti sur un tel sujet ?
Fin 2015, Alteo devait arrêter tous ses rejets. Mais en septembre dernier, il demande une dérogation pour continuer à rejeter non plus des boues, mais des effluents, c'est-à-dire ces eaux de rinçage.
Ce qui, chimiquement, est encore loin d'être parfait. L'expert au micro de France Nature Environnement.
L'ex-premier ministre, donc Malioras, n'avait pas tous les éléments de jugement et qu'il a cédé au chantage à l'emploi de l'industriel. Et qu'il n'a pas réfléchi qu'il y avait d'autres solutions que nous avons données. D'ailleurs, nous avons dit que nous ne sommes pas pour la fermeture immédiate de l'usine, mais nous sommes pour donner un sursis de 2 à 3 ans à l'industriel, temps suffisant, d'après l'expérience que j'ai sur les stations d'épuration, et qu'ont d'autres experts, en 2 ou 3 ans, l'industriel peut se doter d'une station d'épuration suffisamment performante pour arrêter le rejet en mer et pour recycler les eaux devenues propres.
Et coup de théâtre, le conseil d'administration du parc émet un avis favorable. 1000 emplois sont en jeu. C'est donc Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, qui devra trancher.
Avis favorable, non pas qu'il y ait désormais une station d'épuration, non, juste du sacro-saint chantage à l'emploi. Depuis Lima, la ministre de l'Environnement réagit au reportage.
Image impressionnante, Ségolène Royal, témoignage à charge. C'est un dossier, c'est Bout Rouge que vous suivez de très près.
Oui, en effet, la vérité n'a pas été dite sur ce sujet. C'est pour ça que j'ai suspendu le renouvellement de l'autorisation de déverser des déchets chimiques et toxiques dans la Méditerranée et que j'ai déclenché une enquête qui sera prochainement rendue publique. Et voilà maintenant un système qui n'est plus durable, ce laxisme en direction d'entreprises qui ont le droit de polluer et donc qui s'approprient des profits privés contre une pollution qu'elles ne payent pas et qui sans doute détruisent davantage d'emplois qu'elles n'en créent. Donc il ne faut plus que le chantage à l'emploi conduise à être laxiste à l'égard des entreprises qui polluent. Il faut travailler justement l'évolution de l'activité de ces entreprises, le maintien et la sauvegarde des emplois sur d'autres activités que celles qui conduisent à polluer et peut-être à créer des maladies.
Merci Ségolène Royal.
Après décembre 2014, mai 2016, l'enquête de Thalassa.
On a plongé, vous savez, avec un ROV, et voilà ce qu'on trouve à 300 mètres dans la mer, voilà. Dans le parc national des Calanques. Ouais. C'est ouais. De la boue.
Il y aurait... Oui, c'est de la boue, et en plus dedans, avec des métaux lourds, du mercure, etc. Et on nous a raconté maintenant que c'était stabilisé dans l'eau. Non, c'est pas stabilisé dans l'eau.
Non, parce qu'on en ramasse facilement.
Non. Alors, mais le jour où ça sera interdit, on dira, mais comment est-ce que ça a pu même exister? Comment même on a pu autoriser ça? Comment est-ce qu'on a pu même renouveler cette autorisation? C'est inadmissible.
Et vous, vous êtes ministre de l'Environnement, oui. Et de la Mer. Vous avez un pouvoir quand même important. Votre ministère, oui, est énorme. Oui. Et comment se fait-il que vous n'ayez pas eu gain de cause? Comment se fait-il que vous n'avez pas été écouté?
Parce que Manuel Valls a décidé le contraire. Il est Premier ministre, il a décidé le contraire de ce que dit sa ministre de l'Environnement. C'est, voilà, dont acte.
Vous devez vous écraser. C'est ça.
C'est pas ça, c'est qu'il a pris cette décision, donc il a donné l'ordre au préfet, donc le préfet a donné l'autorisation. Je peux pas donner un contre-ordre, mais en revanche, mon rôle, c'est de dire que je ne suis pas d'accord.
On en a vu d'autres, des ministres sans pouvoir, mais avec sans doute des convictions, qu'il a fait à mou qui s'en vont. Tiens, ça rime.
Mai 2016, les résultats du laboratoire, voilà, Analytica sont prêts.
On trouve évidemment beaucoup d'aluminium. Et on détecte du barium, du calcium, du cérium, du chrome, du césium, du cuivre. Donc chrome et cuivre, par exemple, sont des métaux lourds. Mais aussi du molybdène, du rubidium, du vanadium. Alors le vanadium, c'est un polluant qui a un effet connu sur la faune marine.
Dans l'échantillon donné par Alteo, des traces de métaux lourds et de l'arsenic.
Tout le monde sait que l'arsenic, c'est un poison pour l'homme comme pour les autres êtres vivants. Les volumes qui sont rejetés de ces effluents sont considérables. Il s'agit d'une conduite qui déverse 365 jours par an, 24 heures sur 24, 270 mètres cubes par heure.
À partir de l'échantillon donné par Alteo en mai 2016, on a calculé plus d'une tonne d'arsenic pourrait être rejetée par an en mer.
Une tonne d'arsenic ni vu ni connu, jusque-là. Là, je vous remets ce petit son des années 66 ou 67.
Les boues rouges ne sont pas constituées, comme vous le savez, de substances toxiques. Le problème, donc, consiste à savoir si cette affaire risque un jour de remonter.
C'est-à-dire, s'il y avait un tuyau qui déversait comme ça, au vu de tout un chacun, ça serait impossible. Donc c'est pas vu, pas pris quand c'est dans l'eau. Comme si la mer était une poubelle collective gratuite.
Non seulement c'est remonté, le problème sanitaire notamment, mais il empoisonne bien du monde. Il irradie. Tiens, oui, et le taux de radioactivité à Manjgari en 2014.
Nous avons demandé à cet ingénieur de la CRIRAD de nous accompagner, équipé d'un compteur Geiger. Le compteur s'affole et le verdict est sans appel.
Là, sur ces boues rouges, on a un taux de radiation qui est de l'ordre de 6 fois le niveau naturel. La raison pour cela, c'est qu'en fait, dans ces boues, il y a des éléments radioactifs, uranium, thorium, qui sont certes d'origine naturelle, mais qui là sont concentrés à des niveaux anormalement élevés. Or, ce sont des éléments pour certains qui sont très radiotoxiques par ingestion et par inhalation. Ça veut dire que quand ces boussons sèchent, les riverains sont exposés à des poussières qui contiennent des éléments radioactifs d'une part, mais également des métaux lourds et des toxiques chimiques.
Il en profite pour faire un prélèvement qu'il va analyser. Question, les produits valorisés à partir de boues de bauxaline peuvent-ils être dangereux pour la santé ?
Nous, à la CREAD, on s'est beaucoup battu il y a quelques années et on a gagné pour qu'un silicate de soude faiblement radioactif ne soit pas incorporé dans la laine de verre. C'était un projet porté par Isover. Dans ce dossier de la valorisation de la bauxaline, c'est pareil, il faut que les citoyens, les consommateurs, aient accès à des données scientifiques fiables. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de transparence. Si vous prenez les fiches de données de sécurité de la bauxaline, il n'y a pas un mot sur l'uranium ni sur le thorium.
Un niveau de radiation entre 4 et 8 fois supérieur au niveau naturel signifie qu'il est déconseillé de marcher et de vivre ici.
De l'autre côté du vallon, nous avons rendez-vous avec les riverains cette fois.
Je rentre pas parce que c'est...
Et c'est la terrasse qu'ils veulent d'abord nous montrer.
On a nettoyé la terrasse et après il est descendu du toit plein de rouge, à tel point qu'on a demandé à Altéo de venir nettoyer. Ils sont venus, ils ont nettoyé une partie.
Ah oui,
ils se sont arrêtés pour cause de mauvais temps.
Mathilde Ontato nous emmène au lac, à quelques mètres de là. À deux pas d'un sentier de randonnée, c'est un ancien lieu de stockage de l'usine. Un lieu qu'elle préfère éviter désormais.
Je vois ça depuis des années, mais je n'arrive toujours pas à m'y faire. C'est abominable. Quand on voit ces pauvres arbres morts là-dedans, cette terre toute souillée. Là-bas, au fond, ils ont végétalisé pour que nous n'ayons plus de poussière. Effectivement, ça y a fait, il y en a moins. Mais comme ils ont installé un filtre à presse un peu plus loin, et les poussières qui venaient d'ici ne viennent plus, mais elles viennent quand même de là-bas. Donc ils ont déplacé le problème, le résultat est le même.
Abdelatif Kaldi, lui, ne peut plus se promener. Il archive soigneusement chaque photo prise depuis quelques années. La terrasse blanche, puis rouge, quand les poussières recouvrent tout, avec le vent d'est en été. À 67 ans, il a eu 2 AVC et un cancer du cœur, un cancer très rare, 5 cas dans le monde. Et il n'est pas le seul à être malade.
Sur 6 familles, il y a 4 cancers. Et des problèmes neuromusculaires, il y en a 2. Des thyroïdes, on ne les compte pas. Est-ce que c'est dû à ces poussières ? On n'en sait rien.
Depuis, le pauvre Abdelatif a doublé la mise avec un cancer des poumons.
On ne peut plus empoisonner la mer, alors on empoisonne la terre.
Ça vous révolte,
c'est
là.
C'est dangereux pour les poissons, ce n'est pas dangereux pour les humains.
Je sens beaucoup de colère, là. Hein.
Oui.
À Gardanne, ville et usine ne font qu'un. L'usine fait vivre près de 1500 personnes dans la région. Mais ici, on n'a qu'une seule peur, qu'elle ferme.
Moi, j'habite pas loin, là. C'est vrai qu'il y a des jours, j'ai la voiture est toute rouge. Bon, ça va, d'accord, mais pas à aller jusqu'à mettre les gens à la rue, quoi.
Si on ferme celle-là, alors à Gardanne, c'est mort complet.
Eh hein. Oui.
C'est une ville sinistrée. Hein.
L'écologie, c'est bien beau, mais ça fait pas manger le monde.
Non, non, vous étendez une chemise blanche le matin, le soir, elle est rose. Vous avez l'avantage de ne pas acheter une deuxième chemise, quoi. C'est le seul avantage qu'on a. C'est infernal. C'est infernal. Ce qu'on respire, c'est un poison total.
Et au bistrot du coin.
Ça gêne. Allez, les colons qui. Moi aussi, je ne suis pas content qu'il y ait des rejets en mer, ça va. Ça va, mais ça va à 2500 mètres au fond.
C'est marseillais, toujours à exagérer.
C'est toute nos familles, c'est péchiné, plus ou moins. Donc c'est difficile de faire une critique et d'être trop dur avec des entreprises qui ont nourri, qui ont fait un berceau. Donc les gens, c'est vrai qu'on le sait. Bon, on la voit pas, certes. On sait qu'il y a un problème. Bon.
Regarde les effets de la lumine, regarde les bouts rouges que ça fait. Oh, la tranche qu'il a. Voilà. 40 ans, non, c'est le Ricard, ça, excusez-moi. C'était pas là. Non, c'était...
Mais là où il n'y a pas à plaisanter, c'est quand un élu de la nation s'y met.
Quand vous avez sur place un élu, un parlementaire, qui est élu au groupe écologiste et qui soutient l'entreprise, Du coup, tout le monde s'engouffre là-dessus. En disant, ben si, puisque le député écologiste dit que c'est pas dangereux, ben allons-y.
Ça se poignardait avec une saucisson. Ça.
France 3 PACA, 10 avril 2018, à Bouc-Bel-Air, entre Marseille et Gartane.
Un immense nuage de poussière rouge soulevé par le vent d'Est. Le nuage est arrivé du sommet de cette colline, au pied de laquelle se trouve le lotissement de la Tuilerie. En quelques heures, une poussière très fine se dépose sur les maisons, dans les jardins et se répand jusqu'à l'intérieur des habitations.
Beaucoup de gens m'ont appelé hier en me disant on a passé la journée à nettoyer l'intérieur de la maison. On passe le doigt sur les meubles, c'est rouge. Alors c'est une poussière, c'est pas une couche comme ça de boue rouge. C'est de la poussière qui va partout. Je me suis passé un coton dimanche soir sur le visage, comme on fait la plupart des femmes font. Il était rouge.
Lorsqu'il a vu les photos prises sur place, le maire de la commune, lui aussi, a vu rouge. Richard Mallier estime que l'entreprise Alteo ne respecte pas ses engagements de protéger les populations. Il a décidé de porter plainte pour pollution.
Ce que je reproche à Alteo, c'est le fait de ne pas avoir anticipé. Ils ont une obligation de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'envol de poussière, qu'il n'y ait pas de nuisance pour les riverains.
C'est la deuxième fois en 6 mois qu'un tel phénomène se produit. L'entreprise Alteo n'a répondu à aucune de nos demandes d'interview. Les habitants de Bouc-Bel-Air, eux, réclament l'intervention du préfet des Bouches-du-Rhône.
Un mois plus tard, le 6 mai 2018, on retrouve Dorothée à la manif devant l'entrée du vallon.
Il y a eu une étude de l'ANSES qui a été faite l'année dernière. La conclusion dit qu'on ne peut pas enlever un risque avéré pour les riverains de Mangegarie. Je pense que c'est plus que ça. Quand on voit l'impact au niveau du vent, de ces poussières rouges, ce qui s'est passé le 8 avril, ce n'est pas que Mangegarie, c'est quelque chose qui va très loin. Mais ce n'est pas que quand il y a des coups de vent, c'est un impact permanent. On le voit sous nos fenêtres, on a une poussière rouge qui est très très fine, qui s'infiltre partout. Et des écoles qui sont tout près, des écoles, des crèches. Les associations de parents d'élèves sont vraiment très inquiètes et veulent avoir des réponses claires par rapport à cette toxicité ou non. On nous dit pas de toxicité, mais c'est pas vrai. Quand on voit les conclusions de l'ANSES, on n'est pas du tout tranquille. Parce que ça, c'est un stockage qui est jusqu'en 2021. Et quand on entend l'industriel, il voudrait pousser ça jusqu'à 2035, avec à nouveau des dérogations. On s'est mobilisé, on a monté une association, Bouc-Bel-Air Environnement. On s'est allié avec les associations de Gardanne et ZEA, qui est l'association du lanceur d'alerte, Olivier Dubuquois. Donc on a décidé de faire une union, les opposants au Bourrouge. Et avec ça, eh ben, on va continuer la mobilisation, faire tout ce qu'il faut pour être entendu et que l'État fasse quelque chose. L'industriel prenne des mesures parce qu'il ne respecte pas l'arrêté préfectoral et toutes les règles environnementales. On a demandé des études épidémiologiques type SPCAL comme à Fosse. Mais le problème, c'est bien cette étude, mais c'est dans 15-20 ans qu'on va avoir les retombées de toute cette toxicité. Donc on demande plus que ça, on demande vraiment une étude de ces particules qui arrivent chez nous. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce qu'on l'a en permanence là autour de nous. Ça, parce qu'on est une région qui est quand même impactée par... Il y a la biomasse, il y a la farge, il y a l'autoroute, il y a Fosse qui est en fonction du vent. Donc ça fait un effet cocktail qui n'est pas top. Donc voilà, on va se battre jusqu'au bout pour que ça s'arrête en 2021, sûr.
Le 12 février 2019, France 3 PACA.
Opération spectaculaire ce matin. Il est 8h45 sur le boulevard Saint-Germain à Paris. Des boues rouges sont déversées devant les portes du ministère de la Transition écologique. D'autres au siège d'Alteo en région parisienne. Ces lanceurs d'alerte interpellent le gouvernement sur la toxicité de ces résidus de bauxite. Il y a quelques jours, ces militants nous avaient donné rendez-vous au pied de cette carrière de boue rouge, 350 000 tonnes en accès libre. Une opération commando, soigneusement préparée. Ils vont charger un camion de 26 tonnes de boue, objectif, rallier Paris. Pour alerter les autorités.
L'idée que ces déchets en fait soient déposés de manière aussi pourrie dans la nature, à côté des habitations, que ça impacte en fait en termes de santé aussi les habitants proches. Mais voilà, nous en tant que citoyens, on se doit de se mobiliser et on organise cette opération là pour faire un retour à l'envoyeur.
Ouais, c'est ça, juste à gauche des tuyaux.
Ces lanceurs d'alerte demandent l'arrêt pur et simple de tout rejet dans la nature. De son côté, l'industriel continue de rejeter toute responsabilité en matière de pollution.
Et qu'en dit-on au bord de la calanque de Cassis? Premier commentaire en guise de conclusion au micro de France Nature Environnement en juillet 2017.
Pendant toutes ces années, les entreprises qui sont succédées n'ont fait aucun effort, comme un élève au fond de la classe auprès du radiateur. Et l'État, en maître des classes, n'a jamais fait le contrôle, n'a jamais tarabusté l'industriel pour lui dire « il faut que vous progressiez ». Donc qu'est-ce que fait un mauvais élève quand il est peinard au fond de la classe? Il ne fait rien. Et évidemment, l'industriel n'a rien fait. Et ensuite, quand le parc a été créé en 2012, il y avait deux solutions. Ou on disait, en 2014, lorsqu'on nous a demandé notre avis, on donne un avis négatif. Ça a signé l'arrêt de mort de la société Alteo. C'est-à-dire qu'elle fermait, elle ne pouvait plus rejeter. En ne rejetant plus, elle fermait. Et on a pris une autre voie, qui a été d'accorder un sursis supplémentaire, c'est le dernier, de 6 ans, en disant à l'industriel, maintenant vous allez vous mettre à trouver des solutions. Il avait déjà commencé avec l'agence de l'eau, donc l'État, et vous allez vous dire à l'État, maintenant vous allez faire votre job de contrôler l'industriel et de contrôler ses rejets. C'est le cas depuis un an et demi. Et notamment, on constate que les rejets en mer s'approchent d'une qualité conforme aux normes européennes. Ils n'y sont pas encore, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais ils ont largement baissé, évidemment, un certain nombre de pollutions qui se retrouvent aujourd'hui à Boumbélair, en plein air, etc., qui peut poser problème là-bas, et j'en suis conscient. Mais en tout cas, en mer, le rejet s'améliore, confirmé par la DREAL, donc les services de l'État, qui fait maintenant des contrôles inopinés, qui ne se contentent pas des analyses de l'industriel, comme c'était le cas pendant 50 ans. Donc voilà, on a eu une histoire où tout le monde a laissé filer. Maintenant, il y a un parc national, on a une obligation, on a une exigence de qualité, et honnêtement, je crois pouvoir dire que chacun s'est mis sur le sujet et qu'on sera conforme à la fin des 6 ans, c'est-à-dire à la période de fin 2020.
Et nous voici rendus à la fin de cette 26e visite de la saison 6 du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa 107.3 au Mans et radioalpa.com partout ailleurs. Diffusion les samedis et lundis midi et le mardi à 17h30. Retrouvez tous les podcasts sur la page de l'émission sur radioalpa.com et toutes les plateformes de réécoute libres. Mais ne nous quittons pas sans musique et sans cette chanson sur la musique de Julien Clerc, paroles signées d'Attaque Bruxelles en juin 2019. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa et d'ici là, ne manquez pas de sortir la tête de tous ceux qui vous empoisonnent l'existence.
Mais ce qui est intéressant dans ce conflit, vous voyez, c'est que même en France, il faut des combats pour faire en sorte que la loi s'applique et que la protection de l'environnement et de la santé publique s'applique par rapport aux intérêts financiers, par rapport aux lobbies industriels, par rapport au chantage à l'emploi, etc. Et qu'un jour ou l'autre, ce combat, on le gagnera.
Je ne sais pas si on saura un jour et si on aura vraiment le fin mot de l'histoire. Ce qui est certain, c'est que c'est une responsabilité partagée et que c'est un peu tout ça qui contribue justement à l'opacité dans ce dossier.
On sait que la radioactivité est cancérigène. Il y a 60 ans, on travaillait l'amiante comme aujourd'hui, tu travaillais la pâte à pizza. Et les effets, ils ne sont pas tout à fait les mêmes. Hein. On compte les morts aujourd'hui.
On vous avait prévenu. C'est une sale histoire.
Pour un bonheur qui s'est éteint, notre monde est en décadence. Mais il faut réagir enfin pour laisser place à l'espérance. Que par la lutte aux pollueurs qui sévissent en débandade, les eaux reprennent leur couleur, turquoise bleu profond et vert jade.
On ne peut plus empoisonner la mer, alors on empoisonne la terre.
Ça vous révolte,
c'est
là.
C'est dangereux pour les poissons, ce n'est pas dangereux que les humains.
Je sens beaucoup de colère, là. Hein.
Oui.
Ne nous sentons pas vaincus, ensemble nous ferons les gestes pour attraper le temps perdu, sauver les tortues et le reste. La vie sous-marine reprendra. Nos barèmes et nos rades, la pollution disparaîtra à la fin de notre croisade.